Bonsoir à tous. Après l'assassinat en Algérie du français Hervé Gourdel, la France renforce sa sécurité. Quelles sont les nouvelles mesures prises pour contrer la menace djihadiste sur notre territoire? Quels sont les piliers du dispositif et ses faiblesses caractérisées? Comment enfin pour les autorités redoubler de vigilance sans enfreindre nos libertés? Deux ans après l'affaire Mera, l'arrestation ratée en milieu de semaine de trois Français, djihadistes présumés, interpellent. De retour de Syrie, expulsés de Turquie, atterris à Marseille mais attendus à Orly, mis en examen hier et finalement placé en détention provisoire après s'être rendu d'eux-mêmes aux autorités. Saisi de cet imbroglio stambouliot, comme l'a qualifié son président, le député socialiste Jean-Jacques Urvoas, la délégation parlementaire au renseignement n'a pas conclu à un dysfonctionnement des services de sécurité intérieure. Officiellement, donc, pas de dysfonctionnement, mais un sérieux loupé. Et après, risque terroriste, sommes-nous bien protégés? C'est notre débat du jour. À 18h50, Bruxelles et après, se dirige-t-on vers une Union européenne contre la menace islamiste? Première nation occidentale à rejoindre les États-Unis dans une coalition militaire contre l'EI, la France qui s'est déclarée mardi à la tribune de l'ONU par la voix de son président en état de guerre contre le terrorisme, suivie vendredi par le Danemark, la Belgique et le Royaume-Uni. Paris, Londres et après, élément de réponse avec la chronique de Mathias Mégy et l'éclairage de la politologue Ulrike Guéraud en ligne avec nous de Berlin. Jusqu'à 19h, c'est dimanche et après, une émission réalisée par Peyré Legras avec Jacques Azubert à la technique et préparée par Mathias Mégy. Menace djihadiste, risque d'attentat, pensez-vous que nous sommes bien protégés? Vous pouvez désormais réagir sur le compte Twitter de l'émission hashtag et après ou sur franceculture.fr. Nos invités ce soir, Céline Berton, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire générale du syndicat des commissaires de la police nationale. À vos côtés, René-Georges Kerry, bonsoir à vous.
Bonsoir madame.
Ancien inspecteur général de police et ancien chef de l'UCLAT, unité de coordination de la lutte antiterroriste créée en 1984 et actuellement dirigée par Loïc Garnier, contrôleur général de la police nationale. Cette unité de coordination, aujourd'hui, son chef ne souhaite plus parler. On le comprend, la situation est devenue très politique, dit-on à l'UCLAT. Vous comprenez pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que la situation est basculée dans un côté beaucoup plus politique?
Tout simplement parce que, d'une façon générale, le terrorisme a une dimension politique, puisque c'est une guerre psychologique qui s'attaque aux structures de l'État et au contrat social. Il est toujours difficile, quand on est fonctionnaire de police au cœur du dispositif, de répondre sans pour autant dévoiler tous les éléments dont on peut disposer la police. Donc dans ce genre de situation, le silence est la meilleure des protections.
Merci à vous en tout cas d'être là avec nous et de nous faire partager votre expérience en la matière pour essayer de comprendre un peu les dispositifs en vigueur aujourd'hui. Par téléphone également avec nous, Alain Chouet. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes ancien chef du service de renseignement de la sécurité de la DGSE, spécialiste du Moyen-Orient, des questions de terrorisme et du djihadisme, auteur notamment de « Au cœur des services spéciaux, la menace islamiste, fausse piste et vrai danger », un livre paru à La Découverte. Retour d'abord ensemble et en son sur l'actualité de la semaine.
Incroyable raté au plus haut sommet de l'État. Trois présumés djihadistes de la famille de Mohamed Merah avaient appréhendé. On pensait qu'ils avaient appréhendé en arrivant. Surprise, à l'arrivée en France, personne ne les attendait aux forces de l'ordre et les trois hommes sont maintenant dans la nature.
Manifestement, un gros camouflage, mais il est en grande part dû aux difficultés et l'absence de très bonne collaboration avec les services turcs.
Les policiers disent ce matin que le système Kéops, le contrôle des passeports, n'a pas fonctionné. Ils disent que ce système fonctionne rarement.
Oui, malheureusement, ces pannes sont fréquentes parce que nous avons des systèmes informatiques avec un moteur de 2 chevaux. Et nous avons des pannes tous les jours dans la police et nous ne cessons de le dénoncer. Il faut de toute urgence moderniser ces outils.
Dans ce contexte, les trois djihadistes présumés arrivés de Turquie mardi ont été transférés de Montpellier vers Paris. Ils ont pris un avion hier soir. Leur garde à vue se poursuit au siège de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure à Levallois-Perret.
Mais là, on se rend compte que même chez les gens identifiés, au quotidien, il peut y avoir des loupés administratifs, des loupés dans la pratique de police et dans la coopération avec les Turcs. Donc, il faut quand même bien être conscient que non seulement il y a un risque intrinsèque à cause de tous ces jeunes gens qui sont formés et déterminés, mais en plus, la surveillance n'est pas infaillible.
Céline Berton, dysfonctionnement, cafouillage, raté, quel est le terme que vous employez pour qualifier cette interpellation manquée ?
Moi, j'ai, en tant que commissaire de police et représentante des commissaires de police, j'ai quand même été frappée par la violence d'un certain nombre de mises en cause des services de sécurité et de renseignement. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de le dire au ministre de l'Intérieur lui-même et à un certain nombre de vos confrères journalistes. Dans cette matière, comme dans bien d'autres, et a fortiori quand il y a des sujets de sécurité nationale en jeu, il convient d'être un petit peu prudent. Et il est normal que ça suscite des interrogations. Des inspections sont en cours. La délégation parlementaire au renseignement a déjà auditionné les responsables des services concernés. Et nous savons déjà qu'il n'y a pas eu d'erreurs commises par les services français de sécurité et de renseignement. Et je profite de l'audience que vous m'accordez ce soir pour le dire haut et fort. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de difficultés dans la liaison avec les services turcs. C'est d'ailleurs ce qui a valu un déplacement du ministre de l'Intérieur et de hauts responsables policiers ces deux derniers jours. Ça doit nous conduire à être évidemment d'autant plus prudents sur le détail de la collaboration avec les services turcs pour les retours des djihadistes. Mais il faut être attentif à ne pas jeter l'opprobre sur la totalité des services de sécurité et renseignement qui, ici, ne le méritent pas.
Ni peut-être sur la Turquie, mais là, vous dites quand même plutôt la faute aux Turcs qui n'ont pas passé l'information.
C'est ce qui a été établi. Et j'espère une fois encore que la presse qui s'est révélée généreuse dans la couverture de ce sujet sera aussi généreuse dans le relais du contenu des inspections une fois qu'elles sont rendues publiques.
Et quand l'un de vos confrères, Christophe Rouget, qu'on attendait à l'instant du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, parle de ce système Kéops qui selon lui marche à deux à l'heure, un système qui a été depuis explicité mais aussi en partie dénoncé, là encore pour ses retards et ces plantages, ces incapacités parfois à fonctionner, quand est-ce que la police sera dotée, et la sécurité intérieure, d'outils modernes pour pouvoir réaliser sa mission ?
Alors c'est une réalité exacte qui est ici mise en avant, mais les outils matériels c'est bien, il ne faut pas oublier non plus les outils juridiques. Le contrôle des ressortissants communautaires sur un aéroport comme celui de Marseille se fait dans le cadre des accords de Schengen, qui posent avant tout comme principe le droit à la libre circulation. Ce qui veut dire que c'est les personnes qui rentrent sur le territoire national jouissent du droit de se déplacer et que les services en charge du contrôle des retours ont seulement le droit à des vérifications minimales. Il n'y a pas de vérification systématique. Ça, c'est une réalité qui n'a pas été portée dans les médias. Donc, quand bien même le service aurait été le service matériel du fameux logiciel qui permet de l'interrogation des fichiers de police aurait été parfaitement fonctionnel, il n'est pas dit que les individus auraient fait l'objet d'une interrogation fichier parce que les policiers, les agents qui sont chargés du contrôle frontière, n'ont pas le droit de le faire de manière systématique.
En tout cas, ils n'auraient pas été 24 heures dans la nature avant de se rendre eux-mêmes en plus au service, à la gendarmerie.
Je ne nie pas le fait qu'on doit s'interroger sur le schéma global, mais il faut être attentif sur les responsabilités qu'on essaie de mettre en cause.
René-Georges Kerry, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous, quel terme employez-vous ? On se croirait presque dans un film, mais là, le scénario n'est pas très drôle, surtout vu la situation actuelle. Comment vous qualifiez-vous cet épisode ?
Bon, tout d'abord, cet épisode est effectivement fâcheux, mais il est imputable. Un manque de contact entre les services turcs et les services français là-bas sur place. On a connu ça déjà dans les années 80 en France, quand on collaborait avec nos collègues italiens, allemands ou anglais. Et on avait mis en place, avec le temps, une coopération internationale européenne avec des policiers étrangers au sein du ministère de l'Intérieur. On a fait venir des Allemands, des Anglais, des Italiens, des Espagnols. Nous avons des policiers français en Italie, en Espagne, en Allemagne. Ils travaillent dans les services de police. Ils se connaissent, ils appartiennent à la même communauté. Et bien évidemment, les problèmes se règlent très vite. La circulation est fluide. Les gens se connaissent, ils ont une vraie confiance. Ils appartiennent à la même maison. Ça n'est pas le cas avec la Turquie. La Turquie, déjà, n'est pas dans l'Europe. Et puis, la coopération avec la Turquie est une coopération qui est embryonnaire, cartilagineuse, naissante, donc par définition imparfaite. Il y a eu une enquête d'inspection a été demandée par le ministre. Ça fait toujours très mal, c'est toujours quelque chose de désagréable en soi, parce qu'on a l'impression d'être mis en accusation à tort. Mais en réalité, ces inspections ont moins d'avantages, c'est qu'elles feront apparaître, du moins cette inspection-là fera apparaître clairement où s'est situé le dysfonctionnement à qui on peut faire porter la faute et l'erreur. Et on verra bien que c'est un dysfonctionnement au sein des services turcs. Alors après, évidemment, l'affaire est amplifiée. Trois pseudo-djihadistes qui sont arrivés en France, ils étaient connus, identifiés. OK, ils ont échappé au contrôle à Marseille. Ils sont partis dans la nature. Mais on savait bien qu'un jour ou l'autre, on allait mettre la main sur eux.
Ils le savaient probablement, sinon ils ne se seraient probablement pas rendus aussi rapidement auprès des services de la gendarmerie.
Bon, ça fait négliger, c'est une rayure sur la carrosserie, mais ça n'empêche pas quand même la voiture de tourner, et la voiture de lutte antiterroriste, qui est quand même jusqu'à présent assez bien, assez efficace.
Que n'auriez-vous entendu si s'était passé quelque chose aussi dans cet intervalle
Alors là, il aurait fallu se faire harakiri, du moins pour les responsables.
Alain Chouet, une nouvelle loi a été votée le 18 septembre dernier pour endiguer, dit le gouvernement, le départ de jeunes djihadistes vers la Syrie, dans une moindre mesure vers l'Irak. La France parle aujourd'hui d'un peu plus de 900 personnes parties en Syrie ou en Irak, et une majorité d'entre eux dans les 8 derniers mois. Cette nouvelle loi antiterroriste introduit une notion d'interdiction administrative de sortie du territoire. On voit qu'avec un nouveau dispositif législatif et juridique, on va peut-être pouvoir ralentir le nombre de sorties. Mais que faire de ces Français, de ces ressortissants français qui sont partis en Syrie ou en Irak et qui reviennent aujourd'hui sur le territoire ?
Bon, alors d'abord, moi je conteste le chiffre de 900 personnes parties. Hein. Ce qu'on a dit, c'est que 900 personnes étaient concernées par un éventuel départ en Syrie. Là-dessus, il y en a 300 ou 350 sur place et beaucoup qui ont des velléités de partir, mais qui ne sont pas partis. Bien, déjà, rectifions de ce point de vue. D'autre part, on est en train d'essayer d'imaginer effectivement des systèmes juridiques un peu complexes, un peu liberticides et qui sont contestés par un certain nombre de magistrats pour contrôler ces mouvements, ces départs.
Et notamment, je précise, la création d'un nouveau délit aussi d'entreprise terroriste individuelle. Il y a beaucoup de choses dans cette loi.
Ça, c'était nécessaire parce qu'on était limité, la justice était limitée par la notion d'association.
De malfaiteur en vue de la préparation d'un acte terroriste.
Oui. Pour en revenir à la question globale de toute cette législation, on n'a jamais posé le problème de base qui était celui du contrôle par les Turcs eux-mêmes de leurs frontières avec la Syrie. Parce que moi, j'ai constaté sur le terrain où je me suis rendu pas mal de fois, que les Turcs contrôlent parfaitement bien leurs frontières avec l'Iran ou le Kurdistan et qu'ils ont une frontière tout à fait perméable et ils entretiennent la perméabilité de leurs frontières au profit des djihadistes. Voilà. Alors, il y aurait peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Il est clair, je rejoins l'avis de Mme Berton et de Kerry, que les Turcs n'ont pas fait leur boulot dans cette affaire. Et d'autre part, je constate aussi que ces trois jeunes qui sont rentrés là étaient totalement dans un plan communication destiné à faire de la subversion au sens classique du terme, puisqu'ils ont pu trouver à leur descente de l'avion un bataillon d'avocats qui les a aidés, qui les a mis en relation avec la presse, qui se sont ensuite rendus le surlendemain à la gendarmerie du Kellar, je la connais bien, elle est pas loin de chez moi, et tout le monde sait qu'il n'y a personne là-bas. Or, eux ne connaissaient pas la gendarmerie du Kellar, donc quelqu'un leur a dit de se présenter là-bas de façon à ridiculiser les gendarmes. On est clairement dans un plan de communication subversif, mais pas dans une logique terroriste.
Vous avez raison, puisque vous parlez de leurs avocats, est-ce que ces trois djihadistes et plus globalement ces ressortissants français partis en Syrie et revenus en France sont présumés coupables, pour reprendre une expression qui est passée dans le langage commun maintenant, ou est-ce qu'ils bénéficient tout simplement aussi de la présomption d'innocence? En gros, comment peut-on mesurer la dangerosité potentielle de ces jeunes partis et revenus aujourd'hui sur le territoire?
Il n'y a pas de maître étalon à mesurer la dangerosité des gens, que ce soit en matière terroriste ou en matière criminelle. La façon de les identifier, elle est bien connue de mes collègues de la DGSI et des anciens DRG et de la ST, c'est d'avoir profilé ces gens-là le mieux possible. Les RG avaient développé un excellent maillage des communautés à risque, des communautés et des personnalités à problème. Je pense qu'ils sont toujours aussi performants et que, de ce point de vue, ils peuvent détecter un maximum de gens qui peuvent éventuellement présenter un profil dangereux.
Céline Berton, justement, ces trois jeunes ont été d'abord mis en examen, garde à vue, mis en examen et maintenant placés en détention provisoire. Le grief, c'est l'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. Est-ce qu'il faut une matérialisation des actes préparatoires pour pouvoir aujourd'hui les placer en détention sous ce motif-là? C'est-à-dire, est-ce que des armes ont été trouvées chez eux, des plans? Comment peut-on matérialiser au-delà de l'intention?
Alors, je ne pourrais pas rentrer.
Présumé, oui,
je ne pourrais pas rentrer dans le détail parce que je ne les ai pas nécessairement. Puis je ne vais pas m'auto-proclamer spécialiste de sujets qui sont extrêmement complexes. Mais comme on a quand même un code pénal qui effectivement et un code de procédure pénale qui demande à ce que un certain nombre d'actes soient remplis pour pouvoir poursuivre les gens. Et c'est d'ailleurs heureux. Hein, ça nous évite de revivre des périodes sombres de notre histoire très ancienne. Je voudrais revenir sur deux sujets, si vous le permettez. Le premier, effectivement...
Mais après, vous me répondrez, d'accord ?
Oui, après, mais ça contribuera à vous répondre. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a quand même... Le gros mot de cette affaire, et une fois encore, elle soulève des choses qui doivent être étudiées, mais le gros mot de cette affaire, c'est une logique de communication. Et on peut aussi s'interroger sur l'intérêt de cette communication juste au moment où le projet de loi antiterroriste fait l'objet de discussions au sein des assemblées. La question, c'est celle de la dangerosité potentielle d'individus isolé. Un des objets de la loi antiterroriste, c'est de créer effectivement un délit de préparation individuelle d'actes terroristes pour sortir des contraintes de l'association de malfaiteurs qui existait précédemment et sur laquelle il fallait plusieurs protagonistes. Et c'est vrai que judiciairement, les services de renseignement, les services judiciaires se trouvaient dans l'impossibilité de poursuivre des individus qui manifestement étaient animés par une volonté terroriste, mais en étant plutôt isolés. Alors je vais réfuter le terme de loup solitaire. C'est un terme que les services de renseignement n'aiment pas parce qu'il n'est pas... très juste par rapport aux réalités de ces comportements. Mais c'est des individus qui sont davantage isolés, qui n'agissent pas forcément dans le cadre d'un groupe, mais qui ont pour autant présentent une dangerosité. Ce qu'on a observé en France comme ailleurs, c'est que les individus qui partent vers le djihad et qui sont tentés donc par la Syrie, qui partent donc dans des schémas notamment via la Turquie, pour certains, ils décèdent dans le cadre des combats. Pour d'autres, sont extrêmement déçus de ce qu'ils y trouvent. Et pour d'autres encore, viennent broyer par ce qu'ils y ont vu, par la violence des combats, par la torture, par la barbarie de ce qu'ils ont pu ou voir ou commettre. Et c'est vrai qu'on se retrouve du coup sur le territoire national comme sur d'autres territoires avec des individus extrêmement déstructurés, dont la volonté terroriste n'est peut-être pas immédiatement très forte, mais qui sont complètement déconnectés de ce qu'ils vont retrouver en France et qui peuvent être tentés de passer à l'acte terroriste. Et je pense que c'est la responsabilité des services de renseignement, des services de sécurité français que de pouvoir prendre en compte cette menace avec les outils judiciaires et administratifs adaptés.
Mais qui ne sont pas forcément tous non plus, René-Georges Kerry, des bombes à retardement.
Non, mais enfin, aujourd'hui, notre législation, Dieu merci, s'est durcie et permet aux services de police, sous le contrôle de magistrats, je tiens à le souligner, sous le contrôle de magistrats, de l'ordre judiciaire, dont il faut souligner la compétence, l'indépendance et l'honnêteté intellectuelle, peuvent interpeller des gens, les mettre en garde à vue, éventuellement, après c'est le magistrat qui décide, les mettre en détention. Moi je ne connais pas le dossier de ces trois pseudo-djihadistes qui sont revenus de Syrie. Est-ce qu'on a retrouvé des armes ou pas, des documents? Mais il est apparu clairement que leur personnalité, leur passé, leur passif, leur état d'esprit a justifié une mise en détention. Alors ils vont rester en prison combien de temps? 2 jours, 15 jours, 3 mois, 6 mois? Ça se relève de la responsabilité judiciaire. Mais c'est une très bonne chose de pouvoir disposer de cet arsenal juridique et de magistrats spécialisés qui font équipe avec les services de police pour justement dissuader ceux qui pourraient passer ou qui voudraient passer à l'acte, les dissuader de passer à l'acte.
René-Georges Kerry, inédite, protéiforme, diluée, on l'a beaucoup lu, entendu, ces qualificatifs ces derniers temps pour essayer de qualifier la menace. Comment décrire précisément, selon vous, les risques qui pèsent actuellement en matière de terrorisme sur la France et sur les pays membres de la coalition?
Tout d'abord, si on met en perspective le terrorisme lié à la situation internationale, il faut remonter à 1995 pour voir le dernier attentat qui était en liaison avec le GIA, groupe islamiste algérien, qui est devenu par la suite le GSPC et maintenant les soldats du califat. Et puis avant, il faut remonter à 1986 pour avoir une campagne de bombes dans les rues de Paris par un mystérieux comité de solidarité des prisonniers politiques arabes. Aujourd'hui, on voit bien que ce terrorisme est lié clairement à ce qui se passe en Syrie avec le pseudo autoproclamé État islamique, qui d'ailleurs n'est pas du tout un État. Il est très islamique, mais ce n'est pas du tout un État.
C'est pour ça qu'on l'appelle Daesh aujourd'hui.
Ouais, on l'appelle Daesh, effectivement. Enfin, tout ça sont des acronymes dans une espèce de communauté de pseudo-pensée sur fond de fanatisme religieux, qui est censé fédérer des groupes un petit peu partout dans le monde, mais en réalité, ce n'est pas fédéré du tout. Tout ça, ce sont des sous-traitances, des franchises. Et bien évidemment, l'objectif de ce groupe, c'est de susciter des vocations individuelles en France pour passer à l'acte façon Mera, ce qui, évidemment, ce que je vais dire est extrêmement dangereux. Ce que je vais dire, si demain je suis désavoué par des actes, je vais passer pour un fou furieux ou un irresponsable. Mais si ce groupe fait appel de façon diffuse au monde entier à des actions individuelles, ça laisse supposer qu'ils n'ont pas les structures pour agir en Europe comme cela a pu exister dans le passé, à l'époque où El Fatah ou Abou Nidal pouvaient monter des opérations en France ou d'autres groupes islamistes avec vraiment des clandestins, des artificiers, des explosifs, parce que c'est pas aussi évident que ça de monter une campagne de bombes dans les rues, contrairement à ce que l'on peut s'imaginer. Il faut des spécialistes, il faut des réseaux dormants, il faut des points de chute. Bon, donc moi je suis évidemment préoccupé par la situation et je me dis que demain il peut y avoir un acte individuel, mais je ne suis pas aussi inquiet que cela aujourd'hui. Je crains plus l'acte individuel que la campagne de bombes montée par des organisations structurées.
Alain Chouet, est-ce que vous êtes d'accord? Et est-ce que du coup le fait qu'il y ait peut-être moins de groupes ou pas de groupes constitués comme à l'époque rend la menace moins élevée ou moins importante?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Kerry sur ce point. Dans les années 80, on avait affaire à des terrorismes d'État, sponsorisés par des États, soutenus par des États et leurs services spéciaux, c'est-à-dire qu'ils avaient des réseaux un peu dans le monde entier. Là, on a affaire, comme Al-Qaïda, à des choses beaucoup plus diffuses et les campagnes menées par l'État islamique. Alors moi, je dis pas Daesh, parce que Daesh en arabe, ça veut dire État islamique, hein, en Irak et au Levant. Alors, une distinction qui me paraît un peu subtile.
Merci Daesh, pour la précision.
Daesh, comme ACMI d'ailleurs, qui a brandi de nombreuses menaces contre la France sans jamais pouvoir les réaliser parce qu'ils ne disposent pas effectivement des infrastructures et de la logistique nécessaires à les mener. En revanche, ils peuvent très bien, par effet de résonance, par effet de propagande, mobiliser des individus qui n'ont parfois pas aucune relation avec eux, mais pour commettre des attentats en France. Et là, je suis comme Kerry, je redoute beaucoup ce type d'initiative individuelle, comme on a pu les voir, hein, Mehran et Mouche et compagnie, qui sont extrêmement difficiles à suivre, parce que autant les réseaux sponsorisés par les États pouvaient être suivis par les services de renseignement, autant des initiatives individuelles sont difficiles à suivre.
Pas d'exception, mais des mesures de renforcement annoncées jeudi par l'Élysée, notamment dans les lieux publics et dans les transports. On a vu aujourd'hui le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur inspecter le dispositif de sécurité gare Montparnasse. Vous voyez, il y a de la communication de tous les côtés. Céline Berton, un dispositif qui voit à Paris et ailleurs. Également, on a beaucoup parlé ces derniers temps du plan Vigipirate, opérationnel et efficace, disait Bernard Cazeneuve. Rappelons que ce plan a été créé à la fin des années 70, qu'il a deux niveaux aujourd'hui, vigilance et un niveau très élevé, plus élevé, c'est celui alerte attentat que Beauvau a rappelé récemment, que rien ne justifie aujourd'hui de passer au niveau écarlate, donc au niveau alerte attentat. Ce niveau qui avait été déclenché temporairement en Midi-Pyrénées il y a deux ans après les tueries perpétrées par Mohamed Merah. Céline Berton, est-ce que les outils dont vous disposez aujourd'hui, je rappelle que vous êtes secrétaire générale du syndicat des commissaires de la police nationale, est-ce que les outils dont vous disposez sont suffisants pour couvrir tous les scénarios possibles d'après vous?
Alors une fois encore, avec un projet de loi antiterroriste qui va permettre d'être doté d'outils ciblant plus précisément l'état de la menace telle qu'elle est identifiée aujourd'hui, hein, dans la continuité de ce que nous venons de nous dire, les services disposent d'une palette effectivement bien plus élargie qu'auparavant. Pour autant, est-ce que ce sera suffisant? Enfin, bien malin, hein, celui qui pourrait prétendre que rien n'arrivera. Et nous sommes évidemment très modestes dans ce contexte-là. Ce que disent aujourd'hui nos collègues, c'est pas de savoir si ça arrivera un jour, c'est plutôt de se poser la question de savoir quand ça arrivera. Et c'est vrai que les services vivent avec cette pression psychologique d'essayer d'empêcher évidemment au maximum la commission d'un acte.
Et puis il y en a d'autres comme Gérard Chalian, professeur de géopolitique, c'était ce matin encore dans les colonnes du JDD, pour qui redoute lui moins les attentats que la cassure du lien social et de la tolérance en France. C'est-à-dire qu'il ne suffit de pas grand-chose selon lui pour que les communautés s'échauffent, pour qu'on voit surgir au dernier moment moment une émeute qui pourrait être réprimée, je le cite toujours. Voilà ce que veulent les djihadistes, nous opposer les uns aux autres pour déstabiliser nos démocraties. Voilà pour lui où est le risque, plus qu'un risque d'attentat imminent.
C'est pas faux non plus. Hein. L'objectif d'une manière d'une organisation terroriste, c'est de provoquer la terreur. Donc quand elle réussit à semer à ce point le doute ou les questions dans le...
Mais à partir du moment où on se répète, on ne sait pas si, mais on se demande quand, c'est vrai qu'on entretient ce système-là aussi,
cet
état de peur.
Oui, mais je pense aussi, et vous l'avez noté, je pense que la volonté, notamment du gouvernement, de ne pas passer au plan Vigipirate maximal, répond aussi à cet objectif de ne pas surcréer une peur. Il est important que les services dont la mission est de prévenir ces actes soient le plus mobilisés possible. Ce n'est pas pour autant qu'il faut effectivement créer une peur surjouée au sein de la population.
18h40, quand on sème la guerre, que récolte-t-on, la paix ou l'insécurité? On en débat jusqu'à 19h avec nos invités. Céline Berton, secrétaire générale du syndicat des commissaires de la police nationale, René-Georges Kerry, ancien chef de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, et Alain Chouet, ancien de la DGSE, spécialiste des questions liées au terrorisme.
La guerre contre le terrorisme ne peut pas être gagnée. On ne peut même pas donner de pourcentage. L'échec est annoncé. Pourquoi ? Parce que le terrorisme est une main invisible, mutante, changeante, opportuniste. On ne se bat pas contre une main invisible avec les armes de la guerre.
Nous avons parlé, c'est tout à fait normal, des risques du terrorisme, de l'Irak. Mais ayons à l'esprit que ce que cherche la France dans tout ça, c'est la paix et la sécurité. Simplement, la paix et la sécurité. Il faut souvent savoir se défendre. La paix, ce n'est pas le pacifisme.
France Culture, dimanche et après, Olivia Gesbert.
La paix, ce n'est pas le pacifisme. Autrement dit, si tu veux la paix, prépare la guerre. Reprenant le célèbre adage et paraphrasant Aristote, l'objet de la guerre, c'est la paix. Laurent Fabius justifie ainsi, il y a 2 semaines, l'engagement de la France dans la lutte contre l'État islamique par la recherche de la paix. Alain Chouet, l'avenir lui donnera-t-il raison? Est-ce que cette stratégie de riposte militaire sera la bonne, d'après vous, pour combattre, éradiquer, disent certains, cette organisation?
C'est que cette organisation doit être éradiquée. Alors je ne sais pas si on y arrivera uniquement par des frappes aériennes. Je ne sais pas et je ne crois pas qu'on y arrivera en tenant à l'écart les principaux objectifs de ces mouvements islamistes, c'est-à-dire la Syrie, l'Iran, etc., la Russie. Mais une chose est certaine, c'est qu'on doit mener des opérations militaires contre quelque chose qui exerce d'abord sur le terrain une menace militaire.
La même question s'était posée à l'époque concernant Al-Qaïda, et vous craigniez à l'époque qu'avec ces interventions militarisées, on risque d'alimenter aussi les haines et de nourrir quelque part les rangs des volontaires. Vous diriez pareil pour la situation aujourd'hui ?
Je dirais pareil, effectivement, mais là on est soumis, le problème avec Al-Qaïda, c'est qu'il me semble que l'intervention contre le régime taliban d'Afghanistan était justifiée et légitime puisqu'il donnait asile à Al-Qaïda. Le problème, c'est après, est-ce qu'il était nécessaire de maintenir une occupation pendant 12 ans de l'Afghanistan qui a provoqué bien des dégâts. Le problème sera le même en l'occurrence. Il s'agit effectivement de neutraliser une organisation militaire qui fait peser une menace régionale sur les pays voisins. Ensuite, le problème sera de gérer la suite, et peut-être pas par des occupations militaires qui apparaissent comme des occupations étrangères.
Et une menace qui se répercute aujourd'hui sur...